C'est ainsi que nous commençons toutes nos réunions par une prière. Une prière qui a été demandée, par le Père Emmanuel de Saint-Lô. Celui qui a été le fondateur de la Société de Jésus couronné d'épines qu'on essaie de continuer parce que c'est important. Un bref rappel au sujet du but et des moyens de notre société. Est-ce que c'est bien audible là derrière? Ça va? Bon. Alors, la dite société a été fondée en 1878 à Menil-Saint-Loup par le père Emmanuel. Son but est de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et jeunes filles. Cela égal à la fidélité aux grâces du baptême, de la confirmation et de la première communion, où l'on a promis de renoncer aux pompes du Satan et du monde. Moyens. Il y a deux moyens importants. Union des âmes dans la charité. Et deuxième moyen, la pratique de la modestie dans les habits. Engagement est très simple et très grand. C'est la prière quotidienne qu'on vient de réciter. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Ave Maria, Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Voilà pour le rappel. Voilà le plat d'entrée, maintenant le plat de résistance. Lors de la dernière réunion de la Société de Jésus couronné d'épines, nous avons laissé notre don maréchaux qui était le... comment est-ce qu'on dit? Qui a poursuivi l'œuvre du Père Emmanuel. Alors qu'on a laissé reposer don maréchaux avec son livre « La modestie chrétienne », notre livre de base, pour pouvoir écouter la conférence sur les origines maçonniques du féminisme. Alors bientôt, si Dieu veut, vous pouvez réécouter ou écouter ces enregistrements sur notre site internet. Bon. Et après cette pause, nous réveillons tout doucement Don Maréchaux et nous continuons le résumé de son livre. Je dis résumé, mais vous verrez bien que c'est plutôt un développement. Parce que c'est trop important. Moi, je dis, on va passer rapidement, on va faire tout le livre jusqu'au bout. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 10 à 12 de son livre. Nous allons voir quelques personnages, quelques figures illustres pour la cause de la modestie, qui travaillaient pour la cause de la modestie. Chapitre 10, Sainte Françoise Romaine. Qui connaît un petit peu Sainte Françoise Romaine?
De nom.
De nom. D'accord.
Vous savez seulement qu'elle voyait son ange gardien.
C'est bien.
Et quand elle avait fait le moindre péché véniel, elle ne voyait plus l'ange gardien. Autant dire qu'il est normal que nous ne voyons pas, nous.
D'accord. Alors, bon, je vais un peu développer qui était-elle. Une sainte italienne, bon, avec ce nom romain, elle ne peut pas être polonaise. Une sainte italienne née en 1384 et morte en 1440. Elle est fêtée dans l'Église universelle le 9 mars. Elle est une double patronne. D'abord, celle des automobilistes. Bon, vous verrez qu'il y a un certain lien avec la modestie. Mais d'abord, celle des automobilistes, sans doute à cause de son ange gardien que vous avez mentionné, qui l'accompagnait d'une manière visible. Bon, pourquoi les automobilistes? Parce que les anges bougent rapidement, très rapidement. Bon. Outre son ange gardien, on en avait un autre. Un archange que Dieu lui avait donné pour la corriger, pour la punir. Et cet ange était sévère, car à la moindre faute, il l'a frappé, même en public. L'ange restait invisible, mais les coups étaient entendus de tous. Pas de chance. Je vous en prie.
Okay.
vient de commencer, on est à Sainte-Françoise romaine, 14e siècle, fin 14e siècle. Patron des automobilistes, on a expliqué pourquoi. Alors pour son ange gardien, pour le deuxième invisible, ainsi quelques personnes tiennent un jour devant elles, devant Sainte Françoise romaine, une conversation frivole. Dieu inspire à la sainte de les interrompre. Arrêtez-les, hein? Ça suffit, ça écorche les oreilles. Et comme elle hésite, elle reçoit sur la joue un rude soufflet. La main invisible, mais audible. Pause. Sainte Françoise romaine est patronne des automobilistes. Elle est aussi la patronne de la ville de Rome. Romaine, Rome, ça se comprend. Mais ce n'est pas seulement du fait qu'elle est née à Rome, mais plutôt à cause de son influence, de son action réformatrice sur la ville éternelle. Et surtout, quant à la pratique de la modestie. Elle en montre d'abord l'exemple, elle-même. Mariée très tôt, vous me demandez à quel âge ? À 12 ans. À 12 ans.
C'était courant à l'époque.
Oui, je ne sais pas, peut-être oui. D'accord. À un homme qui tient un haut rang et jouit d'une brillante fortune. Elle devient maîtresse d'une si grande maison. Et voilà les dangers, imaginons. À nombreux, ou plutôt à nombreuses, une pareille promotion sociale pourrait causer des vertiges. On monte d'un cran. Ah, on se sent meilleur que ceux ou celles qu'on a fréquentés hier. Voilà, vous êtes là. On doit se mettre au niveau. Si on monte un cran, on doit se mettre au niveau. En rapport avec les gens qu'on va aborder demain. Mais, chez Françoise, on ne voit ni légèreté, ni vanité, ni arrogance. Elle préfère employer son temps aux soins du ménage et aux exercices de piété, au lieu de perdre son temps à parer son corps et à orner sa tête d'une manière excessive. Je souligne excessive. Excessive. Question. Cela veut dire qu'elle ressemble à un épouvantail? Bien sûr que non. Elle porte, pour plaire à son mari, des habits en rapport avec sa condition, mais elle sait les ramener à des formes modestes. Les bijoux et les perles n'ont pour elle aucun attrait. Elle n'est pas jalouse en voyant les jeunes femmes de sa condition magnifiquement vêtues. Plus tard, son mari étant déjà bien malade, elle obtient de lui la permission de s'habiller d'une robe verte de drap grossier. Ce n'est pas du tout une extravagance, une excentricité. Pardon. C'est la charité qui l'y pousse. Elle vend ses robes, ses bijoux, lors de la famine et de la peste qui sévissait à Rome, elle en distribue l'argent aux pauvres. Elle n'aime pas trop des soirées, des festins, des spectacles. Sa famille ne peut jamais la déterminer à y prendre part. Non seulement elle ne danse pas, peut-être elle sait danser, mais elle ne danse pas, mais elle ne veut même se trouver dans les assemblées dansantes. Et pourtant, elle n'est ni triste, ni bizarre. Le résultat de la justesse de son esprit et de l'élévation de ses sentiments. Son zèle pour la modestie est stimulé encore, en plus de son deuxième ange, invisible, mordible, par une vision de l'enfer. Surtout parce qu'elle y reconnaît, dans les flammes, plusieurs dames qu'elle connaissait dans le monde. Voici le récit. Titre, quant au tourment des femmes idolâtres, je souligne idolâtres, de leur beauté. Elles avaient pour chevelure des serpents qui leur mordaient cruellement le visage. C'est pas commode, hein, comme ça. Tandis que d'autres démons enfonçaient des épingles rougies au feu dans toutes les parties de leur corps. Et pour aiguiser les remords de la conscience, ils ne cessaient de leur dire « Vous avez fait notre métier sur la terre. » Merci beaucoup pour votre aide. Il est juste que vous nous soyez associés pendant l'éternité. Voilà. On vous est reconnaissant. Faites maintenant votre toilette dans ces flammes. Bon. Désormais, Françoise n'hésite pas à dire aux dames, aux jeunes filles immodestes, si vous ne vous corrigez pas, vous êtes damnés. Imaginez qu'on dirait les mêmes paroles du haut de la chair. Hein. Un tollé général. Voilà. Mais oui. Mais ces paroles, bien que dures, produisaient de nombreuses conversions. L'action suit chez elle la parole. Un jour, elle détruit de ses propres mains l'édifice de la chevelure d'une jeune fille. Bon, je n'ai pas bien compris ce que ça dit l'édifice, mais on verra plus tard. Quelque chose de spécial. C'est pas, il y a des châteaux. Il y a quelque chose de plus, voilà. Pour ensuite la coiffer de la façon plus modeste. Voilà. Elle détruit, elle bâtit elle-même. Et le bon Dieu non seulement approuve ses hardiesses, mais, pour ainsi dire, il appose dessus son tampon. Une dame supplie Françoise de demander à Dieu la guérison de son mari. Françoise lui répond, « Votre mari guérira à la condition que vous vous corrigiez de la vanité de vos parures. » La dame promet et son mari revient à la santé. Et ce qui est important, l'apostolat de Sainte Françoise porta des fruits durables. Elle n'est pas une figure seulement de son temps, son influence était durable. Les dames de noblesse romaine ont adopté cette mise digne et modeste qui les a distinguées jusqu'à, c'est Don Maréchaux qui écrit, début du XXe siècle, jusqu'à nos jours. Bon, mais je pense depuis lors, il y avait quelques changements. Avec Sainte Françoise Romaine, nous quittons la ville éternelle, mais nous ne quittons pas l'Italie. Et là, on rencontre des hommes, enfin des hommes, pour lesquels la modestie tient beaucoup au cœur. Ce sont des prédicateurs et surtout des religieux des ordres mendiants. Prenons pour l'exemple un franciscain et un dominicain. Tous les deux, les saints. D'abord, Saint Bernardin de Sienne. Qui connaît quelque chose de Saint Bernardin de Sienne? Je vous dis, vous verrez que vous connaissez quelque chose. Vous verrez bien que vous connaissez quelque chose. Voilà. Né en 1380, mort en 1444. Bon. Un orateur franciscain fêté le 20 mai, surnommé l'apôtre de l'Italie, pour ses efforts en faveur du retour de la foi catholique dans son pays au XVe siècle. Il est connu surtout pour les deux choses. Comme saint François d'Assise, son mot d'ordre est la paix. Mais je pense qu'il faut ajouter le bien, pas que c'est bonhomme, c'est ça mon père? Et à pied, il traverse l'Italie pour le rétablissement de la paix. Il concilie la haine mutuelle entre de grandes familles, guelfes et gibelins, et persuade les cités italiennes de décrocher les armoires des factions, des murs et des églises et des palais, et d'inscrire à la place les initiales. Lesquelles? Attention. Vous verrez bien que vous connaissez.
GHS.
Presque.
GHS.
Ah. C'est un peu Picasso. Ça, c'est le soleil. C'est très connu. Ça, vous connaissez. Oui, vous connaissez quelque chose de simple. Ne sachons même pas. Alors, il demande d'inscrire à la place des armoires les initiales IHS, entourées par les rayons du soleil. Ainsi, Saint Bernardin donne une impulsion et une forme tangible à la dévotion de notre Seigneur. Mais après la paix, c'est la guerre. La guerre avec le péché. Bernardin obtient une immense influence sur la turbulente et luxurieuse ville italienne. Aux villes italiennes,
Villes
italiennes. Il y a une liaison, d'accord. Amené à prêcher sur les places de marché, son audience atteint parfois les 30 000 auditeurs. D'après son biographe, notre saint nettoya l'Italie de tous les péchés dont elle foisonnait. Son succès pour promouvoir la moralité et régénérer la société est remarquable. Comment est-ce qu'il se prenait? Dans chaque ville, il dénonce le vice régnant. Voilà, ça va pas. Avec une telle efficacité que des bûchers de vanité accompagnent sa prédication. Qu'est-ce que c'est que ça, des bûchers de vanité? Dans ces bûchers, le peuple, je souligne, le peuple lui-même jette du combustible. Quel combustible? Miroir, parfum, perruque, jeu de cartes, dés et toutes sortes de frivolités. Le peuple de lui-même. Cette prédication sont pleines d'humour. Au moins pour lui-même. Voici juste un échantillon. Je cite. Il dépeint la femme portant sur la tête des cheveux postiches, dorés et chargés d'une couronne d'or. On va maintenant comprendre ce que ça veut dire un édifice. Au-dessus s'élève, couverte de soie et de broderie, une mitre qui ressemble, je cite, à une vessie gonflée. La double citation. Des peignes, des joyaux de prix achèvent d'embellir la tête. Et des pierres tombent sur le front, etc. Il y avait une toute litanie. On peut se demander, il a fallu peut-être pour soutenir cet édifice des coups musclés. Mais oui. Et au prédicateur de conclure. Avez-vous jamais entendu parler d'une corneille qui s'habille un jour avec des plumes de toutes sortes? Plumes de canal, de perdrix, des soins. Comme d'un camouflage. Après un franciscain vient le tour pour un dominicain. Saint Vincent Ferrier. Mais pourquoi lui? Parce que si vous lisez Don Maréchal, il n'en parle pas dans son livre. Ah, toujours cette jalousie entre les franciscains et dominicains, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, pour une fois. Nous avons vu tout à l'heure comment était l'apostolat de Saint Bernardin de Sienne. Mais celui-ci n'a fait que prendre la relève de Saint Vincent Ferrier en tant que prédicateur populaire en Italie. Quelques mots sur Saint Vincent Ferrier. Il est né en 1350 est mort le 5 avril, voilà, ce jour-là tombe sa fête, 1419 à Vannes. Très bien. Soyez fiers. Hein? Soyez fiers. Surtout les Bretonnes. Il est connu surtout à cause de ses efforts pour cesser le schisme d'Occident, temps où il y avait trois papes. On dit aujourd'hui qu'il y a peut-être deux papes, je ne sais pas. Et aussi pour son combat contre l'incrédulité des Juifs et la réfutation des erreurs des Sarrasins. Tout cela avec un tel succès qu'il a conduit une grande foule de ses infidèles à la foi de notre Seigneur. En outre, il a été favorisé de la grâce des miracles d'une manière exceptionnelle et il les a répandus à pleine main. Ces miracles sont si nombreux et le concours des peuples à ces missions si extraordinaires que pour l'empêcher d'être étouffé, il fallait, lorsqu'il entrait dans les villes, le faire marcher entouré d'un fort cercle de bois. Voilà. Et là, il opère des guérisons du corps et de l'âme. Tout simplement, il chasse des corps des esprits immondes. Il rend, lui, aux sourds, la parole aux muets, la vue aux aveugles. Il purifie les lépreux et ressuscite des morts. Il ranime ainsi des milliers de chrétiens de leur vie de péché à la pénitence, de leur vice à la pratique de la vertu. Voici un exemple. Une regrettable légèreté régnait dans les modes féminines à l'époque où le serviteur de Dieu se rendit pour la première fois à Gênes. Et l'on sait que de tous les abus, ce sont là les plus difficiles à extirper. L'apôtre y parvint cependant, et ceci témoigne de sa puissance de persuasion. Un auteur génois atteste cette étonnante réussite. Je cite. Là, le saint opéra le plus grand prodige et miracle qu'il eût peut-être jamais fait. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Et ce fut de déraciner à tout jamais l'abus régnant parmi les femmes d'aller à l'église la tête découverte. Miracle! Succès du même genre à Savonne. Il décide les femmes à supprimer toute immodestie de leur toilette et obtient qu'elles adoptent désormais la mantille. Plus tard, à Angers, ben voilà, il fera tomber de dessus la tête des femmes, je pense que c'est ancien français, parce que... C'est la crête.
Crête.
C'est comme ça? C'est comme ça?
Voilà.
D'accord.
Exactement.
Bon. La crête. Il fera tomber du dessus la tête des femmes, la crête de leur vanité. Bon. Dit un historien. Il veut parler de leur coiffure pleine de coquetterie vaniteuse. Bon. Trois miracles. Après les prédicateurs, ce sont des rois qui prennent la parole. Un seul à titre d'exemple. Un roi, et quel roi? Un saint et un français. Un français. Il s'agit bien sûr de Saint-Louis de France. Mesdames, mesdemoiselles, je ne vous ferai pas d'injure de demander la date de sa naissance, qui est...
1214.
Et le jour?
Pardon?
Et le jour? Oh, comment?
Il est né à Poissy.
C'est la date. Moi, je demande la date.
Il est né en 1214, vous allez trouver.
D'accord, on passe, d'accord.
Alors, à Tunis, en 1270.
Parce que le 25 août, c'est sa date de naissance.
Non, c'est sa date de mort.
Alors, vous êtes tout prêts. Alors, pour la naissance et la mort, c'est toujours le 25.
Ah.
25. Pour la naissance, 25 avril 1214. Pour la mort, 25 août. On a fêté il y a peu de jours, ça va? 25 août 1270. Ça?
Sur un lit de sang.
Mais je ne vous ai pas fait d'injure. Vous avez bien compris. Quant à la modestie, deux exhortations de Saint Louis. Premièrement, bannir le luxe intempérant et la vanité notoire ou manifeste. Et deuxième, que chacun ou que chacune s'habille selon sa condition. Premièrement, quant au luxe et la vanité. Un jour, il y avait audience. Une dame, ornée avec une grande recherche, voulait entrer en la chambre du roi. Celui-ci, après avoir entendu ce qu'elle lui exposa, dit tout gentiment à la dame : « Madame, je vais vous dire une chose au sujet de votre salut. Jadis, est-ce qu'il y a un S à la fin, jadis ?
Oui, et on le dit.
D'accord. Jadis, on disait que vous étiez belle dame. Mais vous le savez, ce qui était jadis n'est plus maintenant. Je cite. Mais écoutez jusqu'au bout. C'est pas tout. Cette beauté était vaine et inutile, puisqu'elle est disparue comme une fleur. Et vous ne pouvez la faire revenir. Il vous faut donc acquérir une autre beauté, celle de l'âme, par laquelle vous puissiez plaire et à qui ? À notre Créateur. Fin de citation. Imaginons la réaction de la dame si ces paroles n'avaient pas été prononcées par une bouche royale. Mais bon, la dame prit ce discours du bon côté et s'habillait désormais plus honnêtement et plus simplement. Deuxième exhortation de Saint-Louis, s'habiller selon la condition de chacun ou de chacune, tous les deux. On doit se vêtir, disait Saint Louis, selon son état, en sorte que les sages et bons ne puissent dire « Vous en faites trop », ni les jeunes gens « Vous en faites trop peu », c'est-à-dire qu'on soit toujours le mieux habillé de la troupe, mais le moins pompeux et recherché ou affecté, voilà, paraît avec la grâce, bienséance et dignité. Et cela était bien connu, même des chevaliers du roi, donc des hommes, pour qu'on ne puisse pas dire que ce sont toujours les pauvres dames, demoiselles, qui sont toujours visées. Écoutons, Joinville. Je trouvais deux versions, une version ancien français que je ne comprenais pas du tout, je trouvais une autre qui était beaucoup plus compréhensible. Le roi fut à Corbeil, je pense un nom de...
Corbeil, c'est près de Paris.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Un jour de Pentecôte, et il y avait là 80 chevaliers. Il descendit, après avoir mangé au petit pré, sous la chapelle. Sur le pas de la porte, il parlait au comte de Bretagne. Bon. Là me vint quérir, dit Joinville, là me vint quérir maître Robert de Sorbon. Il me prit par le bout de mon manteau et me mena vers le roi. Tous les autres chevaliers nous suivirent. « Maître Robert, que me voulez-vous » demandai-je. « Si le roi s'asseyait en ce pré, et si vous alliez vous asseoir, sur son banc plus haut que lui, vous en devrait-on bien blâmer ?» Je lui dis que oui. « Vous êtes donc bien à blâmer, » reprit-il, « puisque vous êtes plus noblement vêtu que le roi. Vous qui portez fourrure de verre, V-A-I-R, et drap vert. » Ça va? Ça va? Bon. Ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il ne fait pas. Le roi ne fait pas comme ça. Maître Robert, sauf votre grâce, je ne suis pas à blâmer, car cet habit de vert et de drap vert, c'est celui qui me laissèrent mon père et ma mère. Tandis que vous, je cite, je n'ai pas compris pourquoi on dit comme ça, fils de vilain et de vilaine.
C'était l'ancien nom pour dire paysan.
D'accord.
Paysan, roturier, etc. Par rapport.
D'accord.
Voilà.
C'était péjoratif, quand même.
Maintenant, c'est devenu péjoratif. Mais...
D'accord.
Bon, maintenant, c'est devenu péjoratif, mais en fait, à l'époque, c'était les habitants des villages.
D'accord, entendu. Bon. Alors, tandis que vous, fils de vilain et de vilaine, vous avez laissé l'habit de votre père et de votre mère, et vous vous êtes vêtu de plus riche qu'un melun, draperie en poil de chèvre, plus riche qu'un melun que le roi. Alors, je pris le pan de son surcot, S-U-R-C-O-T, et celui du roi, ensemble. Or, regardez si je dis vrai. Voilà. Vous avez compris? Mm-hmm. Voilà.
Oui, là, il était normal que...
Vous voyez, ça marchait aussi parmi les hommes, pas parmi... voilà, pour que
et
vous...
Il était normal que Joinville, qui était d'une noble famille,
oui.
Qui avait donc hérité de ses parents un certain code vestimentaire, le porte, alors que l'autre, qui était d'une origine plus modeste,
oui.
On dirait maintenant en langage actuel, sa casquette ne lui allait plus. Il avait pris la grosse tête.
D'accord.
Et donc il voulait en mettre pour faire bien montrer que eh ben, il était armé.
D'accord.
C'est moi que là.
Bien.
Que vous avez compris?
Oui, c'est.
D'accord.
C'est
après, avec c'est ce commentaire. Je sais pas, ça je n'ai pas creusé. Bien. Bien. Alors, en soi, votre serviteur a fini parce que je fais une sorte de bloc. Alors, si vous regardez bien ce livret, bon, je n'ai pas tout dit, il y a des choses que je n'ai pas dit, justement, pour vous encourager à lire davantage. Voilà. Je dis un peu plus qui était là, pour donner quelques suppléments, compléments. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Alors, j'ai essayé d'englober les saints, les prédicateurs. Pour la prochaine fois, un peu plus que la prochaine fois, je vais traiter sur les évêques qui parlaient au sujet de la modestie, pour faire des blocs. Oui, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que ça vous intéresse ou ça vous a un petit peu ennuyé? C'est intéressant ou pas du tout? Ça vous a appris quelque chose?
C'est intéressant. Bien. On a appris plein de choses. Enfin, pour ma part, j'ai appris plein de choses.
D'accord. Alors, parce que bon, parfois on dit, bon, c'est bien, 12e siècle, 14e, bon, mais quand est-ce qu'on va arriver au 20e siècle? Bon, il faut apprendre l'histoire. Et pour le 20e siècle, on ne peut pas avancer plus que l'année 60, parce qu'ensuite vous avez le concile, etc. Mais oui. Mais oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Non, mais ce qui est très surprenant, c'est que vous parliez là au siècle de 1580, là, les grands siècles de
oui.
La Révolution, de François Ier. Vous parliez de la foi qui était tombée, les gens n'avaient plus la foi. Ce que vous disiez, ils ramenaient la foi dans le cœur des populations, 30 000.
Oui, mais tout va ensemble, hein. Tout va ensemble, comme aujourd'hui.
Mais alors, comme
aujourd'hui?
Parce qu'aujourd'hui, on va dire, ben oui, aujourd'hui, on a la crise de l'Église. Oui. Les ennemis qui sont vraiment
infiltrés,
qui sont infiltrés partout.
Ils sont partout, oui.
Et là, au XIVe siècle, bon, je veux bien qu'il y ait déjà.
Mais vous voyez le christianisme, c'est pas tout de suite qu'il a commencé à régner. Mm-hmm. Vous voyez, c'est tout doucement. Et comment est-ce qu'on a commencé justement par l'influence, moi je dirais par l'influence d'une famille à une autre famille, c'était vraiment quelque chose qui est beaucoup plus direct.
14e siècle, le christianisme était quand même.
Oui. Mais oui, c'est toujours la nature humaine qui tend vers ce qui est beaucoup plus facile, par le péché, etc. On a toujours blessé. Vous voyez, c'est important de rappeler ce qu'on a dit, je pense à la première ou la deuxième conférence, qu'il faut se rappeler qu'on garde toujours des blessures du péché originel. Voilà.
Et est-ce que ça participe aussi au milieu artistique, par exemple du Quattrocento italien,
où on a
les statues, les peintures qui sont dénudées. Il faut dire, quand on va dans les églises à Rome, quelquefois on se dit, c'est impossible qu'on arrive à prier tellement des. Ben, la chapelle Sixtine, là où les papes sont élus, je me dis, mais comment ça
bon, vous savez que le pape, il y avait pendant un certain temps. C'était caché, hein. C'est-à-dire les parties moins nobles étaient cachées par une sorte de peinture qui était peinte dessus. Bon,
oui,
ensuite on a gratté. Oui.
Le 14e siècle, il y a aussi l'explication, c'est la grande peste, hein. Et un tiers de l'Europe qui est morte, et ceux qui sont survécus, ils ont dit, ben, on va profiter de la vie parce que.
C'est comme après la deuxième guerre, c'est la même chose en fait.
Oui, après
c'est la même chose.
Même la première, hein. Il y a les folles.
Et c'est surtout quand même la foi qui est réussie, parce que je pense que la foi, il y a quand même encore en France, il y a encore une partout qui se sont laissés aller.
Et malheureusement,
il n'y a pas forcément toujours de résultats,
en tout cas les
églises. Oui, parce que c'était la Renaissance.
Certains demandent,
qui n'ont
pas des
exemples. Et
le froid, et le
tout s'est dit ensemble, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais oui. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire désormais du haut de la chair? Habillez-vous mieux, sinon, si vous ne vous convertissez pas, vous serez damné. Est-ce qu'on peut dire maintenant comme ça?
Bon.
Oui, oui, qui va nous défendre?
J'ai entendu quelqu'un dire, c'est une citation, je crois, où justement on ne parle plus de l'enfer, etc.
Oui.
Et si les prêtres parlaient davantage de l'enfer, ce sera meilleur pour la foi. Et
Mais oui, c'est la réussite d'aujourd'hui, c'est la plus grande réussite du diable d'aujourd'hui, c'est que les gens oublient qu'il n'existe. Bon, il n'existe pas. Mais oui. Si on ne voit pas les dangers, on ne fait pas attention. Si vous roulez, je ne sais pas, dans votre voiture, si vous ne voyez pas un grand trou qui est devant vous, vous ne faites pas attention. Bon. Mais oui.
Donc, voilà, messieurs les prédicateurs parlaient de l'enfer.
Et on s'en promet cela.
C'est dans l'Évangile, notre Seigneur dit que au sujet de l'adultère, qu'il y a aussi ceux qui commettent l'adultère dans leur cœur. Donc pourquoi oui. Parce que justement, il faut voir des femmes qui sont mal vécues, donc ils vont commettre l'adultère dans leur cœur. Donc la femme est responsable d'un adultère commis dans le cœur d'un homme.
On vit dans la société, il faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Que notre manière de s'habiller influe sur les autres. Et tout passe par les yeux. Mais oui.
Et puis mon père, pour la façon de présenter de demander plutôt les vêtements des dames,
oui,
des messieurs,
oui.
On peut aussi prendre des comparaisons dans le monde profane, je crois que je l'avais déjà dit. En matière professionnelle, j'ai dû aller au casino de Deauville. Et là, il y avait un vigie, un garde, un garde, une personne à l'entrée,
un videur,
qui disait, vous êtes en jean, vous êtes en basket, vous avez pas de veste, vous sortez. Les dames, c'est pareil. Alors, par contre, les tenues, c'est sûr que c'est pas les mêmes règles, au niveau du décolleté. Par contre, il fallait toujours une robe longue, quand même. Hein. Bon, le décolleté, ça...
Des pantalons flanés pour les dames.
Et ou alors un pantalon chic. Hein. Mais j'étais ahurie.
Vous étiez bien habillé.
D'accord. Ils m'ont rien dit. On va que je n'ai pas assez décolleté. Ils m'ont rien dit. Je me dis, dans ce temple de l'argent, et du plaisir,
et du vice, et tout ce qu'on veut.
Et de la vanité, là, c'est clair.
Oui, la vanité.
On a un videur, et puis les gens le prennent. Bon, soit ils insultent le videur, soit ils disent oui, d'accord. Mais ils ne rentrent pas. Ou ils vont se changer. Un jour. Au repas, il y avait quelqu'un qui dit on va aller au casino. Non, je ne suis pas assez bien habillée. Ou alors, quand on va à des réunions, les francs-maçons, quand ils vont à des réunions, le signe distinctif, j'avais appris que le signe distinctif des francs-maçons, c'était les chaussures cirées. Dans une réunion.
Chaussures cirées.
Cirées.
Ah, d'accord. Oui, d'accord.
Pour dire qu'il faut attention à ce détail-là. Oui, c'est le franc-maçon. Voilà, parce que c'est des chaussures bien cirées, mais cirées d'une certaine façon.
Récemment qu'on porte des sandales.
Voilà, donc ça brille.
Oui, c'est M. Jacques Mercure.
Il y a aussi par exemple, quand on voit les femmes témoins de Jéhovah,
elles
n'ont
jamais des
chutes
de
beaucoup.
Même les sectes, les autres sectes, là, les
saints
derniers.
Les mormons. Les mormons, il y a une délégation qui vient de la maison, pareil, dans la tenue, tout. Ah, les dames sont revenues, pardon.
Il y a des juifs, à Paris, à côté de l'école de la fraternité et de la première qui était rue des Cuisinistes, il y avait une école juive, là c'était les deux seules écoles, les gens étaient bien habillés.
Oui,
c'est
ça.
Et les
juifs,
des traduits juifs.
Je crois que nous sommes allés en Terre Sainte.
Oui.
Nous étions sur l'esplanade des mosquées et nous avons assisté à une empoignade au moins verbale. Après, on est parti, on n'a pas vu la suite, entre juifs pratiquants, disons, et puis juifs orthodoxes. C'était pas loin de la châtaigne. Hein.
Mais en Italie, c'est comme ça, hein, pour entrer dans les églises, certaines églises, à l'entrée, il y a des personnes qui attendent, et puis quand les dames n'ont pas de manches ou une jupe trop courte, on leur donne un tissu.
D'accord.
Parfois, c'est différent, elles n'ont pas le tour de l'église si elles ne sont pas habillées correctement.
D'accord.
Et là, avec Benoît XVI, c'était ça, on était l'année dernière à Rome, et bien maintenant, le tissu, il est transparent. Non, je veux dire, c'est du fond de l'église. Avant, c'était un voile jaune.
Oui, c'est ça.
Pas joli du tout, mais enfin, ça cachait. Et là, maintenant, c'est un voile transparent. Parce que...
Bah oui, ça s'est démocratisé. C'est
ridicule.
Transparent.
On se dit, pourquoi on me donne un voile transparent?
Oui, voilà. Ça sert à rien.
On fait du mieux. On n'a pas besoin de ces
choses. Quand il a besoin de beaucoup de prières, François.
Voilà, il faut bien prier. N'oubliez pas de réciter cette invocation qui était, qui est très puissante. Notre-Dame de la Sainte Espérance convertissez-nous et Ave Maria entre les deux. Il y a deux, voilà, il y a trois choses. Il y a trois choses. Parce que ceci est surtout par la prière et par le bon exemple qu'on pourrait influencer les autres, vous voyez, et par la charité. Bon, n'hésitez pas de nous aider tout petit peu ou beaucoup, d'aider le prêtre. Même par votre bon exemple, même par exemple quand il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont pour la première fois, qui s'habillent bon, comme tout le monde, de lui parler, par exemple, tout petit peu, voilà, au moins de ne pas regarder, comment dire, d'une manière un peu indignée. Voilà, au moins ça, vous voyez, au moins ça. Bon. Ensuite, le prêtre verra peut-être que la dame est habillée autrement que les autres et va parler avec elle. Mais souvent, même si vous montrez un bon exemple, même quand vous êtes accueillante, ça va nous faciliter le travail. Vous voyez, c'est important. C'est important.
Est-ce que c'est difficile de garder la charité justement quand on veut...
Mais il faut garder la charité. Qu'est-ce que vous voulez? Mais oui, il faut être charitable. La vraie charité. La charité avec la vérité. Ouais, tous les deux.
D'abord la vérité.
Tous les deux. Tous les deux.
La charité, c'est d'abord.
Tous les deux, ensemble.
La fermeté.
Alors, est-ce qu'il faut aussi la persévérance? Parce que moi, par exemple, dans ma famille,
oui,
j'ai essayé de dire à des personnes qu'elles étaient mal habillées, et ben, on m'a dit, oh, mais c'est pas important, ça, c'est pas...
Bon, vous avez assisté à plusieurs conférences. Vous avez tout un armoire d'armes pour répondre à ces objections. Mais oui. Mais oui.
Il faut que je les apprenne et que je sois capable de répondre, parce qu'on me dit, mais c'est pas le plus important. Je sais pas pourquoi. C'est bien, si on est gentil avec tout le monde, c'est ça que
je veux dire.
Ça, c'est la grande question.
D'accord. Pardon? Le postulat de quoi? Pardon?
Bisounours.
Comment?
Il y a un dessin animé. Des bisounours. C'était les ours. Des petits ours.
Oui.
Et alors les bisounours, parce que quand on fait un bisou, on embrasse.
Ah, d'accord.
Etc.
Ah oui.
C'est gentil, c'est agréable, c'est mignon, c'est doux, etc.
D'accord.
Les bisounours, ils font toujours que des choses très... Très soft, oui, très bon.
Lumière, presque à la ligne. Alors, c'est la fausse charité sans vérité, voilà. Bon.
Voilà, tout à fait. Et la charité, c'est d'abord la vérité, première des charités.
D'accord.
Eh ben oui. Après, il y a la manière. Hein.
C'est le morceau de sucre qui est de la médecine à couler.
D'accord. Peut-être ça pourrait être le hymne de notre société.
Mais non.
Je connais pas. Vous pouvez me transcrire avec des notes.
Non, non, c'est pas avec des notes, mais...
Surtout que c'est le père chantre, le père
Yassine
Marie.
Eh oui.
Ah oui, non, alors on va voir ça à la messe.
Ouais, d'accord.
C'est de Marie Poppins. Mais je veux dire, bon, je vais raconter en trois secondes l'histoire de Marie Poppins. C'est précis, parce que, oui, mais non, c'est juste, c'est une famille américaine.
Oui.
Qui a beaucoup de soucis avec... Ses enfants, parce que le papa est banquier, alors bon, situation, machin, pas le temps. La mère, ça se passe au début du XXe siècle, donc la mère est une suffragette, machin, alors réunion, etc. Bon, donc les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes et ils sont absolument insupportables. Jusqu'au moment où ils écrivent une lettre pour avoir une gouvernante, parce qu'il faut une gouvernante, et selon leur cœur. Bon. Alors le père est furieux, déchire la lettre s'envole, et quelques temps après arrive une gouvernante tout à fait extraordinaire, mais qui fait faire aux enfants des programmes. Alors elle arrive avec un parapluie, comme si elle était sur un nuage, avec un parapluie, et comme le parapluie ouvert, comme un parachute. Donc elle
est parachutiste, d'accord.
Et elle arrive et elle explique au papa que elle prend la place et qu'elle est très ferme et elle va réussir à faire quelque chose de ses enfants. Donc effectivement, elle réussit à obtenir des enfants qui deviennent sages, bien élevés, respectueux de leurs enfants, etc. Alors, elle explique aux enfants qu'il y a un moment pour tout aussi, c'est-à-dire il y a un moment pour s'amuser, pour rire, pour jouer, même quand on est adulte, hein, adulte en rapport adulte-enfant, mais il y a aussi un moment pour être sérieux, où il faut travailler, et où... Bon, et que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et puis, un peu à la fois, eh bien, le père et la mère finissent par comprendre les choses, et la gouvernance, à ce moment-là, s'en va, parce que son rôle est...
Mission accomplie. Voilà. D'accord.
Et elle a, donc, si vous voulez, reformé une famille qui est une vraie famille, avec un père, une mère et des enfants qui se... Rares ensemble et qui discutent et qui sont respectueux les uns des autres aussi.
D'accord. Alors, je veux bien de ce texte, de cette chanson.
Donc, elle explique que ce n'est pas la peine de taper dessus à chaque fois. On peut dire les choses gentiment et fermement.
En fait,
ne croyez pas que les choses soient ce qu'elles sont. Elles n'ont pas toujours l'air ce qu'elles sont.
Très bien. Merci beaucoup.